Bonjour à tous, journée spéciale Asile et Immigration, l'heure de vérité, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres, texte qui suscite questions et inquiétudes. On en parle à partir de midi avec l'invité d'Antoine Mercier et à partir de 12h55 avec notre invité Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il nous rejoindra donc au cours du journal pour ouvrir cette discussion. Mais d'abord, après de nombreuses expositions, Some Africaners Photographed, particularités intersection, structure pour passer aux Français et pour les plus célèbres d'entre elles, le Centre Pompidou lui consacre aujourd'hui une vaste rétrospective qui s'ouvre bien aujourd'hui justement et qui durera jusqu'au 13 mai. Un regard sur son œuvre et sur sa vie liée à celle de son pays, l'Afrique du Sud. Le photographe David Goldblatt est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Et bonjour David Goldblatt.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Xavier Combes, bonjour à vous. Des pages des magazines où vous avez longtemps publié au mur des musées, vous voici donc exposé grand format au Centre Pompidou, Centre National d'Art et de Culture parisien, temple de l'art contemporain. À sa construction, David Goldblatt, beaucoup d'artistes étaient méfiants envers le centre, ne voulant pas être muséifiés de leur vivant. Vous êtes toujours, vous êtes toujours montré réticent devant cette étiquette d'artiste, art of work, work of art, dites-vous souvent, photographe documentariste, que présentez-vous aujourd'hui au Centre Pompidou ? Une œuvre ou un témoignage ?
Thank you very much and thank you for having me here.
Merci de m'avoir invité.
My main problem is that you all speak French.
Mais vous parlez tous français. C'est ça mon grand problème.
Thank you very much.
En tout cas, merci. Je suis ravi d'être là.
I'm showing my work. I don't think of it as
je montre mon travail. Je ne considère pas ça comme de l'art ou un travail de documentariste. Je trouve cette terminologie assez gênante. C'est une espèce d'obstruction. Ça cache le matériau. Moi, je préfère considérer mon travail comme des photos, de la photo.
Et la photo n'est pas un art ?
Si,
la photo, c'est une forme d'art. Mais au même titre que la peinture ou que les déjections d'éléphants, qui sait ? Peu importe, à vrai dire.
Bon, là, nous sommes réunis ensemble jusqu'à midi et demi dans cette chambre noire que vous avez, où vous êtes installé, qui est le studio de France Culture, et j'en perds ma voix. Dans un pays aussi divisé, aussi partagé que l'Afrique du Sud, David Goldblatt, difficile de pas être un témoin engagé. Ceux qui connaissent votre travail vous considèrent comme l'un des plus intransigeants détracteurs du système. Ce sont les mots de la commissaire d'exposition, Karolina Zibinska. Est-ce que vous l'êtes détracteur du système malgré vous? Est-ce que la photographie, tout au long de votre vie, a été plutôt un mode d'expression qu'un devoir de dire ou de dénoncer ?
À mes yeux, la photo constitue un moyen de parler du monde dans lequel je vis et des gens autour desquels je vis, dans un dialogue entre moi et moi-même. Et entre moi et mes compatriotes. Si vous voulez, je me considère comme un observateur et un critique de la société dans laquelle je vis.
Ce sont ces mots, il semblerait que ce soit aussi sa voix. L'américain Walker Evans, photographe de la Grande Dépression, parle lui de ses intentions et de la manière dont il se perçoit. J'aimerais que vous me disiez, David Goldblatt, si ça vous correspond d'une certaine manière. Écoutez.
Le travail que j'ai produit lors de la Grande Dépression semble exprimer la lutte sociale. Mais ce n'était pas mon intention. Il n'était pas produit dans le but d'être utilisé comme propagande pour quelque cause que ce soit. Je suppose que cela m'intéressait d'attirer l'attention, même de choquer, mais je ne pense pas que mon but était de rendre le monde meilleur. J'aime dire les choses telles qu'elles sont.
I do regard photography as an extremely difficult act.
Je vois la photographie comme un acte extrêmement difficile. Je crois qu'accomplir un travail évocateur, mystérieux et à la fois réaliste est immense et rare. Peut-être même parfois presque accidentel. C'est semblable à la chasse. Quand on utilise une machine pour tirer, que l'on tire pour tuer, on obtient la photo que l'on veut, comme une mise à mort lorsqu'on atteint sa cible.
David Goldblatt, vous n'aimez pas beaucoup ces mots, l'appareil comme une arme, la photographie comme une partie de chasse, le clic comme une mise à mort. Vous n'avez pas cette conception guerrière, un peu conflictuelle, du photographe avec son sujet.
I endorse and like Walker Evans' statement, which
I've not read before. Ce que dit Walker Evans, j'avais jamais entendu ses propos, mais je ne suis pas d'accord avec la dernière phrase, enfin la fin. En effet, à la fin des propos qu'on vient d'entendre, on a l'impression qu'on est ramené aux propos de Susan Sontag. La photo est un support agressif. On parle de shoot, on parle en termes assez agressifs. J'ai parlé à Susan Sontag de ça. Elle est venue en Afrique du Sud et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, est-ce que... D'abord, je dois dire que Susan Sontag parlait de l'appareil photo comme étant un pénis. Et le pénis ne peut-il pas faire un acte d'amour? Ce n'est pas fait que pour infliger la mort. Et je ne crois pas que Walker Evans voulait vraiment dire cela. Moi, en tout cas, dans mon travail, je ne fais pas de shoot pour tuer.
Et votre appareil photo, vous le considérez comment, de ce premier Leica que vous vous êtes procuré à aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez comme un prolongement de votre bras, de votre esprit?
J'utilise différents appareils selon les sujets de mon travail et l'appareil photo, je le considère comme un outil. Et outil auquel je suis attaché. En effet, l'appareil est une espèce d'extension de moi-même et je prends plaisir à utiliser un bon appareil photo. C'est une expérience qui procure du plaisir lorsqu'on utilise une machine, un appareil qui est bien fabriqué et qui fait ce qu'on lui demande de faire.
Il y a des centaines de photos, David Goldblatt, dans cette exposition, cette rétrospective de vous au Centre Pompidou, photographe de la terre sur laquelle vous avez grandi, celle qui vous a vu pousser et celle qui a vu grandir les hommes que vous n'avez cessé de photographier aussi depuis toutes ces années, de On the Mines sur les mineurs de Marikana au corps de la série Particularité, les mineurs, les dockers, les ouvriers, les agriculteurs, les petits propriétaires terriens, Afrikaners, Johannesburg, dans toutes ces lumières de jour comme de nuit, la banlieue noire de Soweto, comme le quartier blanc de Hillbrow, les manifestations anti-apartheid, tout ça et tout cela, vous les avez photographiés, David Goldblatt, et on les retrouve dans cette exposition. Chaque photo a une histoire et vous avez toujours pris un soin particulier à légender vos photos, de sorte que on a l'impression que vous créez entre le sujet que vous photographiez et vous, une complicité et une intimité entre le sujet photographié et nous. On peut par exemple se plonger dans le regard de l'homme à la pipe qu'on voit dans cette exposition, photographié en 64. Il vous regarde, il nous regarde assez sévèrement. Qu'est-ce qu'il nous dit cet homme, David Goldblatt ?
This man was an 80-year-old farmer.
Voilà un paysan âgé de 80 ans qui travaille dans un contexte très difficile dans l'ouest de l'Afrique du Sud. C'était un combattant à l'âge de 15 ans Il a rejoint son père dans la révolte contre le règne britannique. Ils ont tous les deux été faits prisonniers. Son père a été mis à mort et lui, Hartkill, a été emprisonné dans un camp de concentration à l'époque. Ensuite, il est devenu soldat dans le nouveau gouvernement, donc l'Union d'Afrique du Sud. Il a combattu en 1916, il y a eu une rébellion, il a combattu contre les Afrikaners qui se sont rebellés contre les Britanniques. Il a également combattu contre les mineurs. Par la suite, il y a eu une grande manifestation des mineurs. Puis il a été dans l'armée d'Afrique du Sud pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc un homme très fort. Un jour, il a brandi son fusil dans un stand de tir dans les années 20 et il a dit « Qui veut acheter mon fusil ?» 3 livres. Un jeune homme qui était enseignant, Hermann Charles Grossman, a dit « Moi, j'achète votre fusil. Moi, il me faut un fusil qui vient de Johannesburg. » Il a acheté ce fusil, il est allé à Johannesburg et malheureusement, il a tiré sur son demi-frère. Et il l'a tué. Et il a été condamné à mort. C'est un des grands écrivains sud-africains dont je vous parle. Il a été condamné à mort. Il a passé 7 ans derrière les barreaux et au bout du compte, on l'a libéré.
Il porte en lui et dans ce regard une partie de l'histoire de l'Afrique du Sud et il porte aussi ses failles, ses douleurs personnelles. Et vous, David Goldblatt, vous êtes né en 1930 à Randfontein, la région des mines d'or près de Johannesburg, d'une famille juive d'origine lituanienne et lettonne. Quelle part de vous mettez-vous dans vos photographies ?
And tell us about that family background of yours and how that brought you to photography.
I don't know that my family background had anything to do with my interest in photography.
Pas sûr que mes antécédents familiaux m'aient amené à la photo. Mais mon frère Dan était radio dans la marine marchande pendant la guerre. Il revenait de ses voyages en mer et il m'apportait des appareils photos déplorables d'ailleurs. Et à l'époque, il y avait la guerre, il n'y avait pas beaucoup de films, il y avait peu d'appareils photo, mais ces petits appareils m'ont quand même permis d'avoir des images. Ces images ont éveillé mon intérêt et c'était la même chose pour les magazines que je feuilletais à l'époque. Ma famille n'avait pas de point de vue, n'avait pas d'intérêt pour la photo, donc n'a pas joué un rôle dans ma carrière, mais ma famille a quand même joué un rôle parce qu'elle m'a bien élevé, elle m'a appris les valeurs culturelles, la valeur de la justice, et ça, ça a été très important pour moi, pour mon travail par la suite.
Pendant l'apartheid, où vous situiez-vous entre les Blancs, les Afrikaners, les Noirs, dans ce pays partagé, divisé? On a le sentiment qu'avec vous, c'est un peu partout à la fois la bonne réponse. Toujours du côté du récit, vous n'avez pas choisi votre camp et pourtant, dans un pays aussi polarisé, ça n'a pas dû être évident. Je vous propose d'écouter l'auteur d'Une saison blanche et sèche, l'écrivain sud-africain André Brink, nous parler de sa prise de conscience à lui.
En Afrique du Sud, on ne peut pas ne pas être conscient de ça, parce que le sens de l'apartheid, le sens de la différence entre les Noirs et les Blancs, c'était énorme, ça dominait tout. Pour moi, c'était ça, la définition du monde, qu'il y avait ceux qui se trouvaient en position de maître et ceux qui étaient les servants. Et il fallait pas mal de temps. Il fallait en effet me distancier de l'Afrique du Sud. Il fallait compléter mes études d'université, faire des études en Europe, à la Sorbonne, pour, à une distance de 10 000 km, me rendre conscient de ce qui se passait chez moi en Afrique du Sud. C'était tellement plus dramatique parce que ceci coïncidait avec le massacre de Sharpeville en 1960. Donc c'était une façon dramatique et très déprimant, ahurissant, de me rendre conscient de ce que c'était que l'apartheid, ce que c'était que la vie sud-africaine et tout ceci. Ça me venait dans un coup terrible qu'il me fallait des années pour essayer de surmonter, essayer de comprendre, essayer d'interpréter.
Vous avez photographié les corps, David Goldblatt, notamment dans cette série connue, célèbre, Particulars, Particularité. Quand avez-vous, vous, pris conscience de ce que votre corps, votre apparence, de la manière dont votre corps vous positionnait dans la société?
La prise de conscience de mon corps dans la société m'est venue très tôt. J'étais encore enfant. Il n'y avait dans mon esprit pas de différence entre ma peau blanche et les peaux noires qui m'entouraient. Je ne voyais pas cette différence comme étant importante. En revanche, ce qui avait de l'importance, c'était la différence entre le statut qui nous était donné dans la société. Et ça, c'était ô combien visible. Très tôt, j'ai su que cette différence était très importante. La femme noire qui m'a élevé et que j'ai aimé, avait dans la société une position différente de la mienne, et ses enfants, auxquels j'étais très attaché, étaient destinés à être différents. On ne pouvait pas nier cela. Ça faisait partie de la structure de la vie que nous menions en Afrique du Sud à l'époque. Personnellement, je voulais transcender cela. Je ne me souviens pas exactement des sentiments qui m'habitaient à cette époque, mais pour moi, c'était très important de surmonter cette différence, de la réduire. Puis, à l'adolescence, ma nounou, cette femme qui m'a élevé, est venue vers moi et m'a demandé de rédiger un document dont elle pourrait se prévaloir auprès d'un policier après 21 heures lorsqu'il y avait couvre-feu et que les Noirs n'avaient pas le droit de circuler dans les rues. Donc avec un document, par contre, elle avait une sorte de passe lui permettant de rentrer chez elle dans son quartier où vivaient les Noirs. Donc moi, je devais rédiger ce document, mais ça a été très éprouvant pour moi. Imaginez, j'étais adolescent, encore gamin, et moi, je dois rédiger un document permettant à cette femme de pouvoir librement déambuler dans les rues sans être inquiété par la police. Donc ça, c'était complètement imbriqué dans notre vie. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette prise de conscience. Dans tout état de cause, dès mon enfance, j'ai vu cette injustice, je l'ai vécue même.
Et vous l'avez transmise, passée au regard des autres. Une ségrégation très tôt visible dans l'espace public, celle de l'apartheid. David Goldblatt, série de photos que l'on peut voir de vous aussi dans cette exposition de la gare de Johannesburg et qu'on retrouve aussi cette division dans votre série Structure en français, réflexion entamée dans les années 80 qui montre le stigmate dans l'espace public de cette séparation, de cette ségrégation, les marques que vous avez photographié. Mais vous n'avez cessé aussi d'apporter de la complexité, de la nuance, pourrait-on presque dire, à ce sujet. Comment symbolise-t-on la domination? On imagine que c'est la question qui a été le fil aussi de votre travail. Comment saisit-on la complexité, les paradoxes d'une situation en une photo sans caricaturer? Vous avez trouvé la réponse?
Yeah. Well, of course, it's not easy to contain the complexities and nuances.
Les complexités et les nuances de notre vie dans l'apartheid sont difficiles à saisir en une seule photo. Ai-je réussi ou non, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, je dois dire qu'à certains moments, vraisemblablement aux alentours de 1968, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler de ces questions à des gens en dehors de l'Afrique du Sud. En effet, il fallait avoir vécu cela, que ces problèmes coulent dans votre sang depuis l'enfance pour pouvoir en parler. Et les gens qui vivaient en dehors de l'Afrique du Sud et qui vivaient dans ces sociétés relativement libres, se faisait une image différente de la vie. Par conséquent, en 68 environ, j'ai décidé que je n'allais plus m'exprimer envers les gens en dehors de l'Afrique du Sud. Au contraire, je me suis dit qu'il fallait que j'entre dans une conversation avec mes compatriotes.
Oui, un jour j'ai renoncé à m'adresser au reste du monde, avez-vous dit, avec ce choix de vous adresser surtout au vôtre, David Goldblatt. Est-ce que cette domination, cette complexité aussi, n'est pas parfaitement résumée par cette photographie qui peut sembler si superficielle au premier coup d'œil et qui est si profonde dans les contrastes qu'elle met aussi en avant, celle de la demi-finale du concours Mademoiselle Jolie Jambe. C'est un cliché que vous avez pris en 1980, où l'on voit sur la scène de cet hypermarché où les jeunes filles se présentent, des jeunes filles blanches en maillot de bain portant des numéros. Elles concourent donc pour celle qui a les plus jolies jambes et tout le public autour, en arrière-plan. Ce sont des Sud-Africains noirs qui regardent cette compétition en train de se faire.
Beauties, can you comment on that photograph?
Yeah, this was indeed a photograph that I regarded as being particularly eloquent.
C'est une photo qui, à mon avis, exprime bien les complexités de notre société. Donc le concours de Miss Jolie Jambe dans un grand supermarché, vous l'avez dit. Ces jeunes femmes, on le voit, sont toutes blanches, c'est particulièrement évident. Mais les Sud-Africains ne remarquent pas cela, parce que c'était comme d'habitude. Ces jeunes femmes étaient un petit peu comme des esclaves que l'on scrute dans le cadre de ce concours. On pouvait voir leur corps, leur silhouette, de manière assez crue, comme si elles étaient nues en fait. Dans le public, il y a un homme noir qui les regarde. Tout le monde les regarde, évidemment, les enfants, des adultes, des femmes, des hommes. Mais il y a dans la foule un homme noir. Si cet homme noir était jardinier des parents de l'une de ces jeunes femmes, et s'il osait la regarder quand elle prenait un bain de soleil au bord de la piscine, avec ce même regard que celui qu'il porte à ce moment-là, eh bien, il aurait été inquiété. On n'avait pas le droit de faire ça quand on était noir. Mais là, c'était dans un supermarché, donc il s'est senti avoir le droit de regarder. Moi-même, du reste, j'ai regardé. Mais moi, j'avais un appareil photo. Donc, on était tous en train de regarder ces espèces d'esclaves blanches. Mais chacune émanait d'un contexte social et racial bien particulier.
Il nous reste quelques minutes, David Goldblatt. Il faut parler de votre choix du noir et blanc, qui n'est pas anodin dans un pays où la couleur de peau structure la société. Pendant l'apartheid, vous jouez sur les contrastes, vous travaillez sur les zones grises aussi, les flous chromatiques. Après 94, vous revoyez soudain la vie en couleur pour marquer peut-être l'espoir d'un renouveau démocratique. Depuis, le noir et blanc vous a rattrapé. Est-ce qu'il faut y voir le signe d'une déception, d'une désillusion ?
I started looking at photographing in color at the turn of the century, and in a way it was.
Je me suis intéressé à nouveau à la couleur. Au début du XXIe siècle, et cela marque peut-être l'espoir parce que dans mon travail personnel. Je me confine au noir et blanc. La couleur est trop douce pour dépeindre l'apartheid. Mais, vous l'avez dit, je me suis néanmoins tourné vers la couleur, couleur que j'ai adoptée pendant 12 ans. Mais par la suite, la putréfaction de notre démocratie est redevenue un sujet d'étude pour moi. Par conséquent, c'était un grand trouble pour moi. C'était un déni de démocratie auquel on assistait en Afrique du Sud. Et c'est alors que je me suis remis au noir et blanc.
En 2016, vous renoncez, David Goldblatt, à léguer une partie de vos archives à l'Université du Cap dans un contexte de violence étudiante pour protester contre la censure, la liberté d'expression, même en recul dans cette société en permanente reconstruction, tentative de réconciliation. On a ouvert l'année avec la démission de Jacob Zuma et l'arrivée au pouvoir de son dauphin, de Nelson Mandela, Cyril Ramaphosa. Peut-être une page du pays qui va se tourner à voir. Aujourd'hui, si vous ne deviez en garder qu'une, quelle serait la couleur de l'Afrique du Sud ?
Aujourd'hui, nous avons grand espoir. Notre démocratie sera peut-être restaurée, la putréfaction a cessé, et nous avons toutes les raisons de croire que les choses ne peuvent que s'améliorer. Néanmoins, nous avons appris à être sceptiques. Par conséquent, nous devons attendre. Wait and see.
Wait and see. Merci mille fois, David Goldblatt, d'avoir partagé cette demi-heure avec nous en français. Et oui, désolé. Je rappelle que l'exposition La Grande Rétrospective qui vous est consacrée est à voir au Centre Pompidou jusqu'au 13 mai, que les portes du musée ont ouvertes pour vous dès aujourd'hui. Et puis qu'il y a un très beau catalogue qui s'associe à cette exposition à feuilleter, bien sûr, à se procurer urgemment. Merci mille fois à vous.